Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau hors-série. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale comme élément clé de la réussite. Et je suis avec Céline. Céline, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Oui, bonjour, je suis très très contente d'être ici. Je m'appelle Céline Aviani. Donc, je suis auteure-compositrice et interprète d'un côté, chanteuse. J'ai sorti plusieurs singles et je vais préparer la sortie d'un EP. Et en parallèle, je suis conseillère principale d'éducation dans les collèges et lycées. Et actuellement, j'ai une mission particulière. Je fais de la gestion de crise dans l'Académie de Créteil.
Voilà, et donc tout ça, en fait, t'a permis d'avoir beaucoup de connaissances justement sur le sujet de la santé mentale.
Oui.
Et c'est pour ça que tu es avec nous pour en parler. On rentre directement dans le sujet. C'est quoi la santé mentale?
Alors, la santé mentale, c'est un vaste sujet. Mais moi, c'est vrai que je m'appuie beaucoup, en tout cas, quand j'aborde ce sujet sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé, en fait, qui définit la santé mentale, pas seulement comme l'absence de troubles mentaux, mais aussi et surtout comme tout, en fait, tout le bien-être qui va pouvoir nous permettre de nous réaliser dans la vie, en fait, qui va pouvoir nous permettre d'affronter les difficultés normales de la vie, de nous épanouir au travail, de l'accomplir dans les meilleures conditions possibles, et en fait aussi de s'inscrire dans une participation à la communauté et à la vie de la communauté. Voilà en tout cas comment aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé définit la santé mentale.
Ok, très bien. Et maintenant qu'on sait ce que c'est la santé mentale un peu plus, comment moi en tant que lycéen, en tant qu'étudiant ou même personne qui est dans le monde du travail, je peux savoir où en est ma santé mentale?
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, notamment à l'adolescence, parce que l'adolescence, on le sait, c'est une période qui est souvent mouvementée et où on a du mal à faire un petit peu le tri entre toutes nos émotions et entre tout ce qu'on ressent. Donc, c'est vrai que nous, en tout cas, personnel adulte dans les établissements scolaires, nous, nos points de vigilance, on va dire un petit peu nos signaux, et je pense que c'est des signaux qui peuvent aussi être très intéressants pour les jeunes à regarder. Nous, ça va être déjà, est-ce qu'il y a une modification dans les comportements? Donc, est-ce qu'il y a une modification dans le comportement alimentaire, une difficulté à manger, ou au contraire, on mange plus que d'habitude? Est-ce qu'il y a une lassitude à venir à l'école? Est-ce qu'on a plus de mal qu'il y a quelques mois à se lever pour aller en cours? Est-ce qu'on sèche plus souvent les cours? Est-ce qu'on a moins envie de quelque chose? Est-ce qu'on a moins envie de voir ses amis, moins envie de sortir? Est-ce qu'on a moins de goût pour aller travailler, pour faire ses devoirs? En tout cas, nous, c'est un panel de choses qui nous font dire que l'élève peut être en difficulté ou le jeune en difficulté à ce moment-là.
Ouais, donc on serait dans un état mental pas très bon.
Oui.
Qu'est-ce qui peut déclencher ce genre de choses?
Alors, il peut y avoir plein de facteurs. En tout cas, c'est quelque chose que met vachement en avant l'Organisation mondiale de la santé que je rejoins, c'est-à-dire qu'on sait que la santé mentale, c'est quelque chose qui est propre à chacun. C'est-à-dire que chaque individu va avoir un baromètre qui lui est propre, un baromètre d'émotion, un baromètre de difficulté qui lui est propre. Et on sait aussi beaucoup que l'environnement social, familial va jouer un rôle. On sait qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans des vraies difficultés familiales, des vraies difficultés sociales, ou qui sont confrontés à l'école à des sujets qui ne sont pas faciles. On parle beaucoup de harcèlement scolaire en ce moment. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui peuvent énormément impacter le développement de la personne.
Très bien. Et justement, comment on fait pour déjà s'en sortir,
Oui.
sortir de ce sort de cercle vicieux où, comme tu as dit, on va avoir des troubles alimentaires, on va s'isoler, enfin, tous ces troubles-là, comment on fait pour réussir à sortir de cette boucle?
Alors, c'est souvent quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est vrai que moi, c'est le premier conseil que je peux donner aux étudiants et aux lycéens qui nous écoutent, c'est de parler. C'est-à-dire, aussi difficile que ce soit, c'est essayer dans son entourage, et notamment à l'école, d'identifier un adulte qui nous semble de confiance, en tout cas auquel on se sent d'aller parler et aller oser lui dire, ben, je traverse une période difficile, je ne comprends pas, je ne me sens pas bien, je sens qu'il y a une modification. Et je pense que ça, déjà, aller faire cette démarche-là, ça va forcément enclencher des choses derrière. Et nous, ça va nous permettre, adultes, et moi là, je me positionne en tant que CPE, et même en tant qu'élève, en tout cas moi qui ai eu une santé mentale qui a pu être fragile à des moments dans mon parcours, de me dire, ben, je sais que la parole, c'est quelque chose, il faut dire, et nous, adultes, on doit apporter une réponse, et on doit entendre cette souffrance.
Ok, très bien. Donc ça, c'est en parler.
Oui.
Est-ce qu'il y a encore d'autres? Alors, on parlera peut-être encore après des conseils
Oui.
précisément. Maintenant, imaginons on est dans un bon état de santé mentale. Comment on fait pour le garder?
Alors, je pense que ça passe par c'est super intéressant de l'aborder comme ça, C'est essayer, en tout cas, moi, je trouve qu'on s'appelle éducation nationale. Et notre rôle en tant qu'éducateur, on ne s'appelle pas pédagogie nationale, on s'appelle éducation nationale. Donc, nous, notre rôle, en tout cas d'un point de vue de l'école, c'est d'accompagner les jeunes sur le volet intellectuel, mais aussi sur le volet émotionnel et citoyen. Et je crois que quand on est jeune, quand on va bien, l'important, c'est en tout cas d'essayer de s'écouter, de trouver des moments qui nous permettent d'être en lien avec soi. Donc moi, je sais, par exemple, donc moi, je suis chanteuse, donc j'écris beaucoup. Et moi, c'est l'écriture, en tant qu'adulte aussi, qui me permet de me reconnecter à moi-même. Et je sais qu'on a tous un domaine dans lequel on se sent plus ou moins connecté. Ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être aller voir des amis. En tout cas, c'est essayer de trouver des temps qui nous font du bien et essayer, pourquoi pas, de les noter sur une feuille et de se dire, ben ça me fait du bien, ça me permet d'aller encore mieux. Et moi, je trouve aussi valoriser l'implication citoyenne. C'est-à-dire que je trouve que s'investir dans son établissement, dans sa faculté, quand on peut prendre part à des groupes, à des actions citoyennes, la vie lycéenne, monter des projets, ça, je trouve que c'est chouette. Ça permet en tout cas de créer du lien.
Ben ça, on s'investit, comme tu disais, on crée du lien avec d'autres élèves, d'autres personnes, des adultes. Et du coup, ça permet aussi, d'une certaine manière, de se mettre en avant, de montrer ses compétences, parce que ça aussi, c'est vrai qu'on a enregistré récemment aussi un épisode sur tout ce qui était compétences. C'est hyper important de pouvoir mettre en valeur ses compétences pour aussi être bien, comme tu disais, mentalement.
Tout à fait. Et je crois, comme tu dis, de parler en termes de compétences aujourd'hui, c'est hyper important. Et chaque jeune, qu'importe qu'il soit bon à l'école en termes de résultats, il a forcément des compétences. Et c'est notre rôle aussi à l'éducation nationale de mettre en avant ces compétences et de les exploiter, soit dans les cours, soit en dehors des cours.
Parce que ça me fait penser à la phrase de Albert Einstein qui disait que justement, si tu fais, je sais pas moi, essayer de faire monter un poisson dans un arbre, il se sentira nul toute sa vie. Et c'est aussi ça actuellement à l'école où on a des matières, donc c'est bien, on apprend un tronc commun, mais tout le monde ne rentre pas dans ce moule
Tout à
imposé.
fait.
Et donc, c'est vrai que certains peuvent se sentir délaissés parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils savent faire.
Tout à fait. C'est complètement ça. Et je crois que vraiment notre rôle aujourd'hui pour la suite, c'est vraiment de valoriser les élèves à tous les niveaux et les compétences permettent tout à fait ça. Et s'investir dans sa vie lycéenne ou étudiante, je pense que ça, c'est une clé aussi pour se valoriser et se sentir valorisé dans d'autres domaines.
Trop bien, ouais. Et moi, maintenant, ce que j'aimerais parler, c'est en quoi justement la santé mentale impacte notre réussite, parce que c'est aussi ça, parce que on peut être mal, tu as donné quelques tips pour être de nouveau bien, tu as aussi, on a dit, bon, ok, on est bien, comment on fait pour rester bien, mais en soi, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Parce que justement, ça a un impact sur notre vie, ça a un impact aussi sur notre réussite à l'école ou sur les projets perso,
Oui.
le fait d'être bien ou non mentalement. Est-ce que toi, tu veux peut-être faire un parallèle avec la musique?
Ah oui, carrément. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison. Moi, en tout cas, je trouve que la santé mentale, ça permet tellement de réussir. Moi, quand j'ai commencé le métier de CPE, dans ma tête, ça a toujours été clair que mon rêve, c'était de faire de la musique et d'être artiste. Et c'est vrai que moi, je pense que ça m'a apporté aussi un regard différent sur les élèves et ça me permet aussi de comprendre leurs difficultés. Et moi, dans ma musique, c'est ce que je viens raconter. Moi, j'ai eu un parcours scolaire, notamment à l'école élémentaire et primaire, qui a été très compliqué. J'ai été victime de harcèlement scolaire, il y a eu des choses compliquées. Et aujourd'hui, la musique, elle me permet d'aller raconter tout ça et en plus de l'allier à mon expérience de CPE et des problématiques. Aujourd'hui, on voit que la santé mentale, c'est une vraie problématique chez les jeunes. On voit que les chiffres ont énormément augmenté en termes de difficultés chez les jeunes. Et je crois vraiment que valoriser des activités à côté, ça change tout. Moi, la musique, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, j'espère être un être humain et un adulte qui va de mieux en mieux.
Mais pour faire le parallèle de mon côté, moi c'est sport. Et je sais que le sport m'a beaucoup apporté. Et
Oui.
aussi pour aussi donner un exemple, parce qu'on parle de réussite, il y a la réussite à l'école certes, mais bon moi je regarde dans le sport, je faisais beaucoup de tennis, un sport qui est quand même mentalement très dur.
Ah oui.
Et franchement, quand tu arrives et que tu es dans une journée qui est pas bien, à l'entraînement, mais il y a tout qui valsait, quoi.
Ah ouais.
Alors qu'il y avait des jours où en fait tu te sens bien, tu dis voilà, et tu marches sur l'eau, tout passe, mais parce que mentalement déjà tu es bien. C'est pareil pour les matchs. Les matchs, bah, quand tu le sens pas, bah, quand tu es mentalement pas bien, bah, c'est compliqué de gagner un match. Alors qu'inversement, quand mentalement tu es bien, qu'en plus tu arrives sur le terrain, tu arrives à faire des trucs, mentalement, pareil, tu rentres dans la tête de l'adversaire, c'est l'autre qui justement, bah, il chute mentalement et toi, vu que tu prends le dessus mental, bah, tu gagnes. Et on le voit beaucoup en haut niveau. En haut niveau, tout le monde s'est tapé la balle, mais après, mentalement, c'est celui qui est le meilleur mentalement et qui arrive à résister,
Complètement.
qui peut gagner. Donc c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant de faire des parallèles parce que voilà, il y a les cours, mais dans toute sa vie, quand on est bon, enfin dans un espace mental qui est bon, en fait, ce qu'on fait, généralement, on va le réussir parce qu'on est bien en place. Et c'est souvent dans les moments de doute, on a des difficultés, que c'est là que ça devient compliqué et qu'en fait, toute notre vie est impactée.
Ah ben,
qu'est-ce que t'en penses ?
Je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est ce que prouvent les neurosciences aujourd'hui. C'est-à-dire que plus on est dans des conditions positives, plus on peut aller vers la réussite. Et comme tu le disais avec le sport, je trouve que c'est la force du sport et des pratiques artistiques. C'est qu'elles peuvent nous mettre en difficulté à des moments, mais elles vont nous obliger à aller chercher des ressources et à dépasser en fait nos propres limitations. Et à se dire, eh ben, en fait, je l'ai fait, j'ai gagné ce match ou j'ai réussi à monter sur scène alors que je suis timide. Moi, c'était ça, petite, j'étais ultra en difficulté à aller parler aux autres. Et aujourd'hui, je monte sur scène et c'est comme toi, en fait, ça t'oblige à te dépasser.
Et je viens de me souvenir en même temps d'un parallèle, mais c'était quand j'étais au lycée.
Ouais.
En première, j'étais toujours quelqu'un d'assez bon en maths.
Ouais.
Bon, pas non plus les têtes de classe qui ont 19 de moyenne toute l'année, mais je me débrouillais bien en maths tout le temps. Et il s'est avéré qu'en première, j'avais un prof qui ne m'a pas mis en confiance. J'arrivais pas à réviser. Enfin, c'était pas de manière globale, ça n'a pas été une bonne expérience avec toute la classe. Et en fait, j'ai eu une sorte d'année blanche où j'ai perdu confiance totalement en les maths. Et j'arrive en terminale. Et là, j'avais 12 de moyenne. C'était pas mon niveau. Et j'ai commencé à prendre des cours. Et en fait, les cours de maths m'ont juste permis de retrouver confiance en moi.
C'est ouf.
Parce que j'avais les capacités, mais c'est juste qu'en fait, je me suis juste dit, mais en fait, je suis capable. Et ça me faisait aussi un parallèle par rapport aux pensées positives. Je ne m'en sentais pas capable en début d'année. Et à force de juste me remettre dedans, de comprendre la méthode aussi du prof, parce que c'était un prof qui attendait beaucoup de méthodos en terminale, juste de me dire, ok, mais en fait, si tu suis la méthode du prof, si tu fais des exercices, t'entraînes, tu sais le faire. J'ai fini, j'avais 16 de moyenne au troisième trimestre. J'ai fait 12, 14, 16, parce qu'en fait, c'est juste eu le temps de reprendre confiance en soi. D'où l'importance de la santé mentale. Et je faisais le parallèle aussi avec les pensées positives. Qu'est-ce que tu penses justement des pensées positives ?
Eh bien, je trouve qu'en tout cas, c'est très important. Et je pense que c'est vraiment le rôle aujourd'hui. L'école doit amener encore plus ça. Elle commence à l'amener, mais elle doit aller encore plus loin. C'est là, par exemple, on a eu il y a eu l'annonce de Gabriel Attal sur le harcèlement, sur les mesures sur le harcèlement scolaire. Et ils ont parlé de cours d'empathie. Et en fait, les cours d'empathie, je pense que c'est vraiment conquérir des compétences avant tout psychosociales. Et je crois que ça, c'est vraiment apprendre à développer l'optimisme, apprendre à développer l'empathie et aussi apprendre à développer quelque chose qui s'appelle la métacognition, qui est en fait un concept qui est d'apprendre aux jeunes et aux élèves à analyser tous les schémas mentaux qui leur ont permis de réussir. Et je crois qu'en fait, de permettre aux jeunes d'apprendre à comprendre leurs émotions, d'apprendre à comprendre comment ils ont réussi à réussir ce problème ou à aboutir à avoir cette note-là, en fait, quel est le chemin qu'ils ont fait ? Je pense que ça donne confiance en soi et que ça permet de se dire « mais en fait, je peux y arriver, j'en suis capable ». Et c'est comme tu disais en maths, en un an, tu avais récupéré tout ton niveau parce qu'en un an, tu avais réussi à voir ton progrès et à voir comment, je pense aussi, tu as réussi à progresser. Et ça, je pense que c'est aussi une des clés de la réussite chez nos lycéens et nos étudiants.
Oui, quand tu parles de process mentaux, c'est de dire okay, quel est le cadre qui m'a permis de réussir.
Ouais.
Et ça, j'ai un exemple dans le sport qui est super. C'est Rafael Nadal en tennis. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le tennis, mais
j'ai mis référence le sport là-dessus.
Mais Rafael Nadal, les fans de tennis un peu se moquent de lui parce qu'il a des tics. Il va mettre ses gourdes d'une certaine manière. Il va tout poser carré. Avant de servir, il va se toucher deux trois fois le short pour le remettre en place. Il va faire deux trois mimiques, tu vois, des tics. Mais en fait, c'est son processus, je pense, comme tu dis, c'est son schéma mental pour se dire si je fais ça, je suis dans mon meilleur état mental.
Complètement.
Et du coup, il le reproduit parce qu'il sait que s'il fait ça, en fait, ça met mentalement son cerveau, je pense, dans de bonnes conditions.
Ben, je pense que c'est ça. Et tu vois, ça me fait écho aussi, moi, juste avant de monter sur scène, maintenant, tu sais, j'ai commencé à me faire un peu un rituel, en fait, un peu comme Nadal, il a son rituel pour réussir. Et moi, tu vois, je sais que j'ai besoin de m'isoler 5 minutes et vachement de me faire des pressions, en fait, de tapoter toutes les parties un peu de mon corps pour activer mon énergie et aller me dire, OK, je rentre sur scène, donc je dois donner une énergie et je dois aller chercher ça. Et je trouve que c'est important d'avoir aussi des petits rituels qui nous permettent de nous sentir bien et de se dire « je me mets dans les meilleures conditions pour réussir à ce moment-là ».
Mais c'est comme l'histoire du stylo préféré où on sait que c'est le stylo avec lequel on sait qu'on peut réussir. C'est le Enfin, c'est la place où j'en sais rien. Enfin, la feuille de brouillon, je fais ci, ça, ça, comme ça. Je sais que si je fais ça, enfin, c'est tout plein de trucs, comme tu dis, toi qui te tapotes un peu avant de monter sur scène.
Oui.
C'est tous ces petits gestes. Je me mets en mode guerrier, en mode je vais monter sur la scène, je vais commencer mon match, je vais commencer un examen.
Et j'y
Et
vais.
c'est parti, quoi.
Complètement. Et c'est des petits trucs, en tout cas, je pense, qui nous permettent, plus on se connaît, plus on apprend à connaître qui on est et ses émotions, plus on peut se créer aussi ces conditions pour réussir. En tout cas, faire tout pour réussir.
Ça, je pense que c'est vraiment la next step. Après, on est bien. Parce que, tu vois, on parlait au début, bah là, on peut être dans une situation où on n'est pas bien mentalement. Comment on fait pour en sortir? Ensuite, bah, on est bien mentalement, mais comment on fait pour aller vraiment à une next step, à vraiment se dire, OK, tu rentres sur la scène, tu rentres en examen, tu rentres dans un match, et tu te dis, bah, t'arrives et t'es en mode conquérant, je suis le meilleur, quoi. Parce que c'est
Complètement.
ça, des fois, c'est juste se dire, être capable de se dire soi-même que tu es capable de le faire.
Complètement. Et je crois aussi accepter, et peut-être il faudrait qu'on le renforce encore plus, accepter qu'il peut y avoir des échecs et qu'aucune réussite ne se fait sans échec, sans devoir recommencer plusieurs fois pour acquérir une compétence ou une victoire. Et je crois que ça, c'est important de le rappeler aussi à ceux et celles qui nous écoutent. L'échec fait partie du chemin, c'est normal, je crois en tout cas.
C'est vrai, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que l'échec dans d'autres pays est mieux valorisé. Je pense aux États-Unis. Ah, tu as monté une boîte, tu t'es foiré, c'est pas grave, t'en montes une nouvelle, ok, machin. Là, c'est plus dans le monde d'entreprise, mais c'est plus, j'ai l'impression, une culture là-bas, alors que c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, ah, tu as une mauvaise note, ah,
Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Et tu vois, moi qui montais mon label de musique, ça doit faire un an et demi.
Oui.
Bah, du coup, ça me fait rentrer aussi dans le milieu un peu de l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est normal d'avoir des moments difficiles. Et il y a des moments où t'es dépité, t'es déprimé. Et en fait, je crois qu'il faut aussi apprendre à prendre du recul et de se dire, OK, pendant 1 ou 2 jours, ça va être compliqué. Mais il y a forcément une solution et je vais forcément trouver autour de moi des personnes qui vont m'aider pour résoudre le problème. Et je pense que ça, en tout cas, ouais, il faut qu'on apprenne en tout cas plus à être dans une optique, ben, des fois c'est normal de se tromper. Et comme tu dis, c'est normal, ben, de ne pas avoir une bonne note sur le premier contrôle. Je réussirai sur le prochain, c'est pas grave. Mais en tout cas,
C'est ça.
nous, aller chercher aussi les ressources qui vont nous permettre de passer la difficulté.
Et surtout le fait de se dire, OK, c'est un échec, mais j'ai donné ce que je pouvais donner.
Tout
Parce
à
que c'est
fait.
ça aussi, c'est que on peut se planter, mais si on a donné, on a fait l'effort de faire de suivre notre. OK, on s'est mis un process mental, on a fait notre process mental, on a révisé comme il faut. OK, bah, j'ai eu 10, j'ai eu 6, ouais, mais j'ai donné tout ce que. Enfin, j'ai donné ce que je pouvais. Après. Là, on peut avoir des regrets, c'est de se dire, bah, j'ai pas révisé, j'ai une mauvaise note. Bah oui, là, on peut avoir des regrets, on n'a pas tout donné.
Complètement.
Mais avoir tout donné et avoir une mauvaise note, c'est de. Après, ce qui est compliqué, c'est justement quand. Je pense que quand tu es professeur, c'est d'arriver à voir la différence entre quelqu'un qui n'a pas bossé, qui a eu un 7 sur 20, et quelqu'un qui a tout donné, qui a vraiment fait l'effort et qui a un 7 sur 20.
Et ça, c'est souvent très difficile et c'est souvent des moments qui ne sont pas faciles et pour les élèves et je pense pour les enseignants. Et c'est, je trouve aussi l'avantage des compétences. Moi, je me rappelle avoir fait un stage quand je me formais au métier de CPE dans un collège, le premier collège de France à Vic-Fezensac dans le Gers, qui a mis tout en compétences. C'est-à-dire, il n'y a plus de notes, il n'y a que des compétences. Et les compétences, elles permettent vraiment aux élèves d'avoir un regard, de se dire, OK, j'ai acquis cette compétence, mais je n'ai pas acquis celle-ci. Alors que la note, elle est plutôt englobante. Elle englobe, on va dire, une copie en totalité, mais il y a forcément dans cette copie, je pense, toujours des choses qui sont pas trop mal ou qui sont bien même. Et c'est compliqué, je suis d'accord avec toi, pour les enseignants d'avoir ce regard.
Clairement. Et moi, je voulais maintenant qu'on résume un peu cet épisode
Ouais.
en essayant de donner trois conseils pour avoir une bonne santé mentale. Alors, c'est peut-être un peu généralisé, mais
Ouais.
des conseils pour s'en sortir, pour aller plus loin. Quels sont en fait les trois conseils qu'on devrait garder finalement?
Alors, moi, si je devais donner 3 conseils de mon point de vue, je dirais parler. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose. Aller trouver un adulte ou des adultes en qui on a confiance pour leur dire ce qu'on traverse. Et on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup de chiffres qui nous font dire que voilà, les jeunes ont ce besoin. On est quand même dans une période qui n'est pas forcément toujours facile. Et il faut, je pense, trouver des adultes référents en qui on a confiance. Donc ça, je dirais parler. Ensuite, comme je te disais tout à l'heure, je pense s'investir. Dans des activités, dans des projets, aller participer à des clubs dans son établissement pour faire des rencontres aussi de personnes qui nous ressemblent et se dire ben, j'appartiens à la communauté et je m'investis pour un projet qui peut faire du bien à tout le monde. Et je crois que quand on fait du bien, on essaye de s'investir dans quelque chose qui peut faire aussi du bien à soi, mais on fait du bien aux autres. Et ça, je pense que c'est très, très chouette et que ça peut être vachement porteur de belles choses. Et ensuite, si je devais donner un troisième conseil, je réfléchis, je dirais, essayer de se trouver des moments pour soi, pour pouvoir se connecter à soi et peut-être aussi essayer de se déconnecter des fois de l'image qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que quand on est jeune, on est beaucoup sur les réseaux sociaux et moi, la première avec mon activité musicale, j'y suis beaucoup. Mais je trouve que des fois, on voit beaucoup de filtres, on voit beaucoup une très belle vie et en fait, on ne voit pas les coulisses. Et ça, je pense que quand on a 15-16 ans, ça peut être très difficile dans sa construction, notamment par rapport au corps, par rapport au regard des autres. Et donc, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais je pense que nous, adultes, on doit accompagner aussi cette distance vis-à-vis des réseaux sociaux.
Oui, parce que je rebondis, parce que c'est super intéressant ce point, c'est qu'on voit la vie idéale, mais que ce soit pour tout, que ce soit pour le sport, que ce soit pour la vie de couple, que ce soit pour la vie en général, quand on voit ouais, je pars en van life, voilà, c'est super, c'est génial, on voit les beaux paysages, mais en fait, on ne voit pas qu'il y a peut-être eu des disputes. J'en sais rien, on voit ceux qui m'ont dit, ouais, j'ai réussi ça dans ma vie. Ouais, mais il y a eu aussi des moments durs. Et
Complètement.
Tu ne le dis pas. Donc, on voit le meilleur de chacun, mais on ne voit pas les difficultés.
Ouais,
donc,
ça,
c'était super intéressant, ce point.
Donc, voilà,
et
c'était
donc,
pour ça.
Et donc, avant, tu me parlais en off que tu avais ton anecdote, parce qu'on finit toujours avec une anecdote, était en lien justement avec ces trois conseils. Est-ce que tu veux nous la raconter pour finir cet épisode?
Oh oui, alors mon anecdote, elle est liée à la musique, c'est-à-dire que je pense que quand j'ai été en terminale, j'ai monté un spectacle musical. Donc moi, je faisais un bac théâtre, j'ai passé un bac théâtre, et avec deux copines, on avait monté un spectacle musical qui avait réuni plus d'une soixantaine d'élèves et quelques adultes de notre établissement. Et en fait, je crois que ce projet a complètement changé ma vie. Et que c'est ça aujourd'hui qui fait que que je veux faire une carrière d'artiste et que je veux faire une carrière de chanteuse. Parce que ce que j'ai ressenti à ce moment-là, ça a été tellement fort, c'est-à-dire que ça m'a amené à développer des compétences artistiques, des compétences de communication, des compétences de faire du lien avec les autres, qui font qu'en fait, quand je suis arrivée après dans mes études supérieures, je me suis dit, la musique me manque. Et j'avais toujours fait de la musique quand j'étais enfant, j'ai fait 10 ans de piano, j'ai toujours eu quand même un parcours artistique. Mais je n'avais jamais pensé en faire un métier. Et en fait, ce manque, il a été créé, je pense, par cette expérience. Et c'est ce qui fait qu'après, j'ai intégré le Conservatoire de Toulouse en musique actuelle. Et qu'après, j'ai découvert l'écriture, la composition. Et que j'ai voulu faire ce métier. Et que je me suis décidée à faire ce métier d'artiste. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire de m'investir dans quelque chose. J'étais dans la vie lycéenne. Je faisais partie de la maison des lycéens. J'étais au conseil de la vie lycéenne. Ben, tout ça, ça a tout changé. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, je crois, que que je veux devenir artiste. Et que je suis artiste.
Et c'est bien parce que justement, ça résume un peu tout ce que tu dis depuis le début,
oui.
Les conseils que tu as donnés, tout ça dans une seule expérience. Donc, merci d'avoir partagé cette anecdote avec nous.
Ben, merci à toi.
Et merci d'être passé sur le podcast. On se dit à très vite.
Eh bien, écoutez, à très vite et au plaisir. Voilà, s'il y a des jeunes qui veulent échanger sur mes réseaux sociaux, Céline Aviani, ça sera avec grand plaisir pour discuter avec eux. Et s'ils veulent aller écouter mes singles, mon dernier single, Encore, vient de sortir. Il parle d'espoir et de courage, de toujours s'accrocher dans la vie. Et là, il y a un nouveau single qui s'appelle Un nouveau monde et qui parle du harcèlement scolaire et de la santé mentale des jeunes parce que c'est des sujets qui vont être abordés dans mon premier EP et qui sont les thématiques centrales de ce premier EP.
Bah, génial. Bah, allez écouter Céline. Elle parle justement des sujets qu'on a parlé aujourd'hui dans ses musiques.
C'est ça.
Dans ses chansons, pardon. Et à très vite. À bientôt à tous.
Et merci à toi. Bravo pour ton travail. Merci beaucoup.
Merci. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes.
À tout le monde, quoi.